Bon, le sujet de Binyamin.
Alors c'est comment être humble dans un milieu riche? Je pose pas.
Ça vous intéresse comme question? Vous n'êtes pas riche, vous, alors. Riche en Torah. Pardon?
Qu'est-ce que c'est l'humilité?
Alors, quand je pose la question au Rabbi Nissim Abba Shaoul, il y a 17 ans, comment arriver à l'humilité, il m'a dit, je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas.
Quelle humilité!
Moi, étant beaucoup plus orgueilleux que lui, je vais essayer d'en parler. Pas parce que j'ai la moindre idée de ce que c'est, mais c'est marqué un peu dans le livre. L'humilité. Alors d'abord, l'humilité en deux mots, c'est savoir qu'on n'est rien. Mais il y a une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Si je suis rien, alors ça veut dire que je suis vraiment un nul. Alors on voit une chose assez paradoxale, a priori, que Moshe Rabbeinu écrit dans sa Torah, Vaish Moshe, et l'homme Moshe, Anav est humble, Mikol Adam Asharpne Adama, plus que tous les hommes qu'il y a sur terre. Moi, demain, je vais éditer des affiches. Rav Ronchaya, l'homme le plus humble de la terre. Moshe Rabbeinu écrit ça dans sa Torah. Alors quoi? Et l'avant-dernier verset de la Torah aussi, écrit par Moshe, mais c'est marqué Bedema. Bedema, deux traductions, ou en larmes, ou c'est qu'il a écrit ça mélangé, Damoua. Damoua, en hébreu, c'est un terme qui parle d'un mélange entre la Trouma et du Choulin, entre des parties qui sont des fruits qui sont destinés aux Kohen qui sont saints et des fruits qui sont profanes. On appelle ça Damoua mélangé. Il a écrit ça mélangé. C'est quoi mélangé? Il a écrit les 12 derniers versets de la Torah, il a écrit sans séparation entre les mots. Pourquoi on dit cela? Parce que dès le 12e verset avant la fin de la Torah, il raconte sa propre mort. Alors, comment, étant vivant, il peut raconter sa mort? Alors, il n'y a pas de problème, c'est un prophète, donc il raconte. Mais simplement, vu que ça ne se fait pas de raconter sa mort alors qu'il est encore vivant, alors, il a écrit ça de façon un peu, on va dire, codée, c'est-à-dire que tous les mots étaient unis ensemble. Donc, l'avant-dernier verset de la Torah dit, Velo kam navi od b'Israël kemoshe. Il ne s'est plus levé dans le peuple d'Israël, encore un prophète aussi grand que Moshe. Il n'y en aura plus. Même Mashiach n'arrive pas au degré de Moshe Rabbeinu. Mashiach, c'est un roi, c'est un grand prophète aussi, mais c'est un roi. C'est vrai que Moshe aussi était un roi. Mais sa spécialité, Mashiach, signifie ouin. Ouin en tant que roi, il est sacré roi. Moshe Rabbeinu est le plus grand prophète parce que c'est le seul qui amène la Torah sur terre. La Torah, elle reste inchangée, inchangeable pour l'éternité. Si Mashiach revient demain et change la Torah, on le fout dehors. Et tu dégages. Je le raconte, j'en ai parlé dernièrement, je vais peut-être refaire vite pour arriver sur une petite parenthèse rapide. Comment nous savons qu'un prophète est un vrai prophète? C'est marqué, si vient un prophète et annonce des choses futures, et fait des miracles, et s'avère que c'est vrai, il faut le croire. Alors, la question classique, il fait des miracles. C'est un prophète, il a un don. Ou n'importe qui vient, et c'est pas trop. Il y a eu beaucoup de faux prophètes, des menteurs. Et ils ont prédit des choses, elles sont réalisées. Alors, tu as deux sortes de faux prophètes. Celui qui dit, puis rien ne se réalise pas. Bon, ça, c'est certain, on les quitte tout de suite. Mais lui se réalise, il te dit, voilà, ok, maintenant, j'ai ouvert une nouvelle religion, etc. Alors, la Torah dit qu'on ne croit pas un prophète parce qu'il fait des miracles. Parce que le miracle, c'est pas... Moshe Rabbeinu aussi a fait des miracles. C'est pas pour cette raison qu'on a cru en lui. Pourquoi on a cru à Moshe Rabbeinu? Parce que lorsqu'on a le dit, dis-moi, quel est ton argument comme quoi tu racontes pas des histoires? Il pourrait dire, je fais des miracles. Maïmonide dit, on ne croit pas au prophète à cause des miracles. On n'a pas cru en tout cas à Moshe à cause des miracles qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'un miracle est fait par un pouvoir surnaturel. Il y a des gens qui ont des pouvoirs. Dans ma jeunesse, il y avait un type qui s'appelait Uri Geller. Il tordait les fourchettes à distance. Ouais. Ouais, ok, pipo, pas pipo. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, des centaines de milliers de gens ont cru à ce truc-là. Et la télévision prenait comme ça une fourchette. Bioup. Un autre essayait de montrer que c'est du pipo. Il essayait. Voyez, j'arrive sans. Ça marchait bien. Alors, pipo, pas pipo, je ne sais pas. En tout cas, des centaines de milliers de gens ont vu ça. Maintenant, admettons que ce n'est pas du pipo. Admettons que c'est oui du pipo, ça m'est égal. Moshe Rabbeinu, je peux dire que c'est Uri Geller, la puissance 1 milliard. C'est mieux. Du pipo, mais il trouve la mer en pipo. Tu tords la mer en deux. Pas une cuillère, une mer. Non, et alors? Et alors? T'as un pouvoir. Qui me dit que Dieu, Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, l'absolu, te transmet la Torah, sa pensée? À l'avoir. Donc Moshe Rabbeinu, on n'a pas cru à cause du miracle qu'il a fait. À cause de quoi on a cru en lui? Parce qu'il s'est dévoilé. Pardon, parce que Dieu s'est dévoilé et a dit, voilà, Moshe, va leur dire au Bnei Israël. Moi, quand je... 600 000 personnes de 20-60 ans, plus les femmes, les vieillards, les enfants, t'as 3 millions de personnes qui voient Dieu leur parler, c'est bon. Ça, c'est pas du pipeau. Ça, c'est plus... On croit à cause du miracle. On a vu Dieu. Donc on a un argument maintenant qu'on sait qu'on ne croit pas aux prophètes à cause des miracles. Alors pourquoi est-ce qu'on doit croire maintenant les prophètes qui viendront grâce aux miracles? La Torah dit qu'il faut croire un prophète s'il fait des miracles. En soi, le miracle qu'il fait n'a aucun poids. Pourquoi est-ce qu'on le croit? Parce que Moshe Rabbeinu, que nous savons que c'est un vrai prophète parce que Dieu s'est dévoilé, a dit il faut le croire, a dit dans sa Torah, s'il vient un jour un prophète et fait des miracles, il faut le croire. Il y a juste un petit alinéa à condition qui te dit de suivre la Torah. S'il te dit, va suivre d'autres dieux, crée une nouvelle religion, comme en fait beaucoup d'autres, alors on lui dit, Quentin, c'est du pipeau. Le miracle en soi que fait un prophète n'a aucune valeur. Il a des valeurs que si, grâce au miracle, il te dit, suis la Torah. Et pourquoi on y croit? Pas parce que le miracle en soi, il a une puissance, parce que Moshe, dans sa Torah, a dit, si vient un prophète et fait des miracles et te dit de suivre la Torah, tu le crois. S'il te dit de ne pas suivre la Torah, c'est Dieu qui te fait une épreuve pour voir ce que tu es croyant ou pas. Tu crois en Dieu vraiment ou pas. Donc Moshe, c'est le plus grand des prophètes. Il n'y aura jamais plus grand, parce que lui, Dieu se dévoile. Par lui, il amène la Torah. Et il n'y aura plus une autre chose pareille. Et la Torah reste inchangée. Si vient qui que ce soit au monde, et même Mashiach, il me dit, on change juste un petit iota de la Torah, comme a fait leur Messie il y a 2000 ans. Le Messie, il est venu, hein, on a pris bien fort, voici, il marche sur l'eau, il fait du ski nautique, tout ce que tu veux. Très bien, ok, alors. Alors c'est bon, c'est lui, le Messie. Il a un petit. Il a dit, je suis rien venu changer, je suis venu rajouter. Pareil qu'il aurait dit un truc pareil. La Torah s'est marquée, tu ne retrancheras rien, et tu ne rajouteras rien. La Torah, c'est une des 613 lois de la Torah, une des 365 négatives. Bal Tosif, interdiction de rajouter.
Est-ce qu'il est Rabbanan, c'est interdiction de rajouter?
En tant que Rabbanan, mais pas en tant que Torah. C'est un décret, c'est un Rabbanan. Moi, je peux, en tant que Rabbanan, dire, écoute, maintenant, je vois que si je t'autorise maintenant à manger du lait après la viande, tu vas pour finir te bouillir les deux ensemble. Donc, je te fais maintenant, une barrière supplémentaire. Mais je dis bien, c'est des Rabbanan. Je ne change pas la Torah. Et la Torah a permis à Rabbanan de mettre des barrières. Vassou, Mishmeret et Mishmarti, c'est marqué. C'est marqué clairement. Mais si quelqu'un vient maintenant et rajoute, ou retranche, ou change, les seuls cas où c'est permis, il faut savoir aussi, parce que ma chère, toi qui viendra bientôt, s'il dit, je ne change pas la Torah, mais de façon ponctuelle maintenant, je change un point. Ça, c'est permis. On voit que, par exemple, il est interdit de sacrifier des animaux hors du temple. Dès que le temple est construit, c'est interdit. Celui qui fait cela, ça carrette. Et Johanna vient et dit, on fait un sacrifice maintenant au Carmel. Elle, comment? Je suis un prophète. Et, de façon ponctuelle, permis.
Dans le temps.
Dans le temps, de façon, voilà, de façon très limitée. Esther Amalka, elle a dit, pas de Pessah cette année. Les 3 jours de jeûne consécutifs qu'on fait le peuple d'Israël en Perse à l'époque d'Esther Amalka, c'était pendant Pessah. Donc il n'y a pas eu de seder, il n'y a pas eu de matzah. Hein. Et comment c'est mis ça de la Torah de manger la matzah le soir de Pessah? Elle a dit, s'il y a de la matzah, il n'y a plus de peuple juif. S'il n'y a plus de peuple juif, il n'y a plus de matzah non plus. Alors mieux vaut qu'on jeûne, et voilà. Oui, c'est une des sept prophétesses. Shlomo Amer a aboli Yom Kippour. L'année où il y a eu l'inauguration du temple, il a dit on fait la fête, pas de Yom Kippour, on mange. Et on a fait des méchouilles en plein Kippour. Comment on fait ça? Ponctuel. Mais dans ma chère, il y aura sûrement des choses ponctuelles qu'il va nous dire de faire. J'imagine. Mais s'il dit, moi maintenant, on change, nouvelle époque, on change, liquide sur place. C'est pas lui. C'est Dieu qui nous éprouve pour voir ce que nous sommes. Et il y a eu souvent des faux messies. L'histoire est bourrée de faux messies. Alors comment tu vois si c'est un vrai info? Tant qu'il dit, fais la Torah, c'est bon. Dès qu'il te dit un nouveau truc, un truc tordu, c'est pas lui. Est-ce que c'est compatible à la Torah ou pas? Ok, alors on va voir les Chachamim, les sages te diront tout de suite. Un sage te dira tout de suite. Ok. Tout ça pour dire que Moshe Rabbeinu écrit dans sa Torah qu'il est le plus humble, et écrit qu'il n'y a pas plus grand prophète que lui. Alors, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est pas croire que quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur. Moshe écrit « Je suis le plus humble ». Et il sait qu'il est le plus humble. Moshe écrit qu'il est le plus grand prophète de l'histoire. Et c'est le plus grand prophète. C'est pas un idiot. Il sait bien qu'il a fait les 10 plaies, il a sorti l'Égypte, il a ouvert la mer, il a descendu la Torah. Il sait qui il est. C'est pas un amnésique. Alors, comment tu me dis qu'il est humble? Réponse. Savoir que toute la grandeur que j'ai, aussi grande qu'elle soit, j'y suis pour rien. C'est Dieu qui m'a donné. Si Dieu n'avait pas créé une neshama qui s'appelle Moshe, il l'avait mise dans le corps de Moshe, alors qui il est Moshe? Qu'est-ce que nous sommes? Sommes toutes. Voilà. Tout ce que je. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas je. Tout le je qu'il y a là, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, t'es rien. Rien du tout. Mais c'est quelqu'un qui a un danger. C'est comme si je suis rien, je suis une mauviette, je suis un vaurien, je suis un nul. Je ne plus rien. Rendre la déprime. T'es grand, t'es immense. Tu es choyé de Dieu. Combien on doit. Un truc dans la vie, je vous dis un petit truc, ça n'a rien à voir, mais. Quand quelqu'un ressent qu'il est aimé de Dieu, et sachez que nous sommes aimés, si on se rendait compte de l'amour que Dieu porte pour nous, on deviendrait complètement fou. Chaque juif est le plus nul qui soit. À plus forte raison des bons juifs comme vous. On est choyé, aimé de Dieu d'une façon démentielle. Donc, au contraire, tu es aimé, choyé, ah, Dieu est amoureux de toi. Dodi, toujours à chercher une histoire d'amour entre nous et Amisraël, entre Amisraël et Dieu. Dieu nous adore. Alors, tu es aimé de Dieu, tu es grand aux yeux de Dieu, le monde dépend de toi, c'est vrai. Mais après tout, tu n'es qu'une créature, que si à la seconde, Hashem, Dieu veut que tu ne sois plus, tu n'es plus. Plus rien. Même pas la Neshama qui est, que tu meurs et tu restes la Neshama. Plus rien. Ça n'a jamais été. Donc, comment quelqu'un peut maintenant s'abroger de l'honneur, une soif d'honneur? Nous avons tous en nous une soif. Je crois que le Messie Tisharim écrit qu'il n'y a pas de plaisir plus grand au monde que le kavod, que l'honneur qu'on peut nous faire. C'est plus grand que tous les plaisirs. D'où provient cette soif d'honneur? Nous avons soif d'honneur, c'est vrai. C'est une donnée et je ne peux pas faire autrement. C'est presque impossible. Tu dis à quelqu'un, t'es quelqu'un de bien, ça me fait plaisir. Et il te dit, encore. Non seulement cela, c'est terrible les honneurs, parce que quand t'as dit 10 jours de suite à quelqu'un, t'es bien, et tu arrêtes après, le type il est en manque. Des fois il devient complètement dingue le type. C'est pire que toutes les drogues. C'est pire que toutes les drogues. Quand il y a 7 ans encore, on n'avait pas ce bâtiment, on avait dans une petite synagogue comme ça. Je n'avais pas de bureau. Mon bureau, c'était dans la Zrat Nashim, où on avait un banc comme ça, on se mettait, on parlait, d'accord, pas de bureau. J'arrivais ici, j'avais un bureau, une table et un siège. Mamma mia. Truc qui monte, qui descend, machin. Tout. ça m'a pris des mois à m'habituer. Au début, je ne pouvais pas. C'est quoi ce truc-là? Je suis un PDG d'une boîte. Je ne pouvais pas. Alors, je me suis habitué. Mais donne-moi maintenant aujourd'hui une chaise en plastique. Mets-la-moi dans mon bureau. Je serais mal. C'est terrible. Et de quoi on parle? Du postérieur. Donc on ne parle pas maintenant de... C'est de la bêtise. C'est vraiment de la bêtise. Mais tu t'habitues. Le confort, l'honneur aussi, c'est pas seulement confort, c'est le siège du Roche Shiva. C'est... Ah, j'ai quelqu'un sur mon siège. D'accord? Ah, c'est du pipeau, c'est vraiment du pipeau. Ça sert à rien. Et les vrais honneurs qu'on te fait, on te prend pour je sais pas quoi. Moi, je n'ai pas promis parce que je suis vraiment un nul, d'accord? Une fois, le frère du Rabben Sion m'avait dit, quand quelqu'un ne sait pas beaucoup de Torah, c'est pas dur d'être humble. Mais quand il connaît toute la Torah, ou beaucoup, il est plus grand que beaucoup de gens. Là, être humble. Parce que tous les autres possessions que quelqu'un a, à part la Torah, franchement, c'est rien. Tu as de l'argent. Alors pourquoi tu es mieux qu'un autre? D'habitude, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il y a pas mal de magouilles. Rockefeller a dit, j'ai été complètement honnête durant toute ma vie. Tout l'argent que j'ai fait, c'est honnêtement. Mais pas, qu'on me demande pas comment j'ai fait le premier million. Le premier million, ça qu'on me demande. Quand t'as un million, après, alors, t'es honnête, c'est facile. T'investis, tu reçois, c'est pas compliqué. Ah, est-ce qu'il y a de l'honneur à avoir de l'argent? Ouais, les gens te font de l'honneur. Mais pourquoi? Quelqu'un t'apprécie en tant que toi? Tout le monde, c'est très dur. C'est très dur. Les gens te regardent, ils voient un S avec deux trucs comme ça dès qu'ils te voient. C'est terrible. Et les gens, et c'est tellement terrible, parce que les gens qui sont riches savent très bien, et c'est pas des idiots, ils savent très bien que tous les autres... Avant, il était normal, personne ne le regardait. Tout le temps, il a des millions, tout le monde lui fait des courbettes. Qu'est-ce que t'as changé? T'es plus le même? C'est pas à cause de toi, c'est à cause de ton argent. Mais, donc, ils savent très bien que c'est fictif. C'est tout de la... comment on dit ça? Du tsmanik, d'accord, hein? C'est du rien. Et le type, il s'habitue à ça. Il ne peut pas sans. Et c'est une halakha. À quel point quelqu'un qui était riche et qui a fait faillite, c'est marqué dans la Gemara, dans la halakha de Shulchan Aruch, on doit lui donner de l'argent comme quand il était riche. La Gemara dit, par exemple, s'il est habitué à aller avec un cheval, et un esclave qui court devant, il faut lui acheter un cheval, un esclave qui court devant. La Gemara dit que Hillel HaZaken, qui était Hillel HaZaken? Hillel HaZaken, c'est le président de l'État, le plus grand, à l'époque président, c'est le plus grand rabbin du monde. D'accord? Qui était un vieil homme, respectable, avec une longue barbe blanche. Il a vu un homme, un millionnaire, qui a fait faillite. Il lui a acheté un cheval. Il n'a pas trouvé un esclave qui puisse courir devant lui. Alors il a retroussé sa djellaba, et il a couru devant lui, 4 par 4, ça nous fait, je crois, 16 kilomètres, je ne sais pas, enfin, une distance. Le grand de la génération. Nous, on aurait dit, écoute, Hillel, ce type-là, il a des problèmes psychiatriques. Il lui faut un esclave qui court devant. Ça va? D'abord, donne de l'argent à des gens. Il y a peut-être meilleur qu'on peut faire que, avec cet argent que d'aider ce pauvre type. En plus, toi, le président de l'État, pour un psychopathe malade, parce qu'il manque du kavod, un esclave qui court devant, il est zinzin. Il est complètement zinzin, ce type. C'est-à-dire que le kavod, c'est une maladie. Mais maladie que les gens ont. La Torah comprend cela. Et le type qui n'a pas sa dose de kavod quotidienne, il est malade. Et tu vois bien que, je ne veux pas dire, 98% de la population court après son statut social. Et ça veut dire quoi, court? Il fait des études des années. Or, pour son mariage, enfin, bon mariage. Combien de couples m'écrivent maintenant? Je suis avec un garçon, elle est avec une fille, tout va très bien. Il faut attendre 5 ans pour se marier. Tu fais des études, il y a l'argent. 5 ans passent. Je crois que c'est le pire enfer qu'il y a. T'as une femme, tu l'aimes, marie-toi. Je sais pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se retiennent jusqu'au mariage. Et quoi, ils se retiennent? Alors, ou ça pète parce que c'est complètement insupportable de se retenir, ou ils font des avérotes. Et ça pète parce à cause des conséquences des avérotes qu'ils font ensemble. C'est tout ça pour le statut social. Pourquoi quelqu'un. Toutes les bonnes femmes maoles, bonnes mères marocaines, qu'est-ce qu'elles veulent de leur fils? Qu'ils soient ou avocats ou médecins. Pourquoi? Sois tamir haram. Connais Dieu. Il n'y a pas de kavod autre que la connaissance de Dieu. Et là aussi, tu n'as aucun kavod à te faire. Tu sais que kavod de Dieu, ça c'est très dur. Un grand rabbin, c'est très dur, parce que lui, il doit la jouer kavod. C'est obligatoire parce qu'il faut qu'il y ait kavod à Torah. Mais en dedans, il doit être le plus humble possible. Il y avait un admor, ça s'appelle l'admor de Rosine. Il allait avec des chaussures en or. pour le faste de la chassidoute de Rogine, dans la neige. Et on voyait ses traces, il y avait du sang par terre. C'était sans semelle. En or, sans semelle. Ça, c'est le kavod d'un rave. Il doit la jouer hyper kavod, mais il sait qu'il n'a rien. Et ça, c'est dur. Quelqu'un qui n'a aucun kavod, t'as fait quelques années de médecine, quelques années de droit, quelques années de... T'as fait du business, t'as magouillé un peu, t'as des millions. Alors, t'es plus intelligent qu'un autre, ou t'es aussi bête que l'autre, ou intelligent comme l'autre, et peut-être t'es plus magouilleur que lui. Aucun kavod. Mais vu que les gens vivent dans le mensonge, et tout le monde lui fait des courbettes, alors, il tombe dans le panneau. À quoi ça ressemble? Comment on fait aujourd'hui, la mafia, elle fait pour qu'elle vende sa cam? Il faut des nouvelles recrues, des gens qui... Alors on l'invite, on lui donne gratuit, on fait coucher un peu avec des filles, tout ça, et lentement, on l'habitue gratuitement au début. Après, il devient accoutumé, et il lui faut sa dose. Comme ça qu'on a des centaines de milliers, millions de drogués dans le monde. Même chose. Le LCAA, il te donne du kavod. Kavod, un jour, deux jours, dix jours, après accoutumance. Vital, non sevrable. Fais-lui une cure de sevrage, tiens pas. Essayez de faire une cure de sevrage, vous. Essayez une journée de ne pas vous vanter de quelque chose. Se vanter, de dire, moi je... Essaye 24 heures. Essaye 24 heures de ne pas te vanter. Essaye 24 heures de ne pas te vanter. Vanter, c'est-à-dire dire une chose bien sur toi. Et quand l'envie va t'arriver, tu vois que si tu ne dis pas, c'est plus dur que de jeûner 24 heures. C'est très dur. Tu tiendras 10 minutes dans la discussion. Après, paf, tu seras obligé de le dire. C'est dur. On a une soif de kavod. C'est tout du... Et pire que cela, c'est marqué dans la Mishnah, Hatava Bakinaba Kavod, Mosimet Adam Minaolam, la Tava, l'envie, la Kina, la Jouji et le Kavod sortent la personne du monde. C'est quoi? De son monde, de la réalité. T'es pas dans la réalité, t'es dans le film. L'homme doit donner du Kavod à son prochain. C'est nécessaire. Honorer, respecter et dire. Parce qu'on s'occupe du Olam Azé, de notre prochain. Mais c'est vrai que quelque part, quand on lui donne du Olam Hazé, alors on l'accoutume. C'est vrai. Mais la Torah dit que c'est nécessaire. Parce que si tu vas t'occuper du Olam Haba des autres, le monde est invivable. C'est bien de souffrir dans ce monde parce que tu n'as plus de Olam Haba. Tiens, prends-en une. Paf! Aujourd'hui, soupe, un peu d'eau chaude, un peu de poivre. Tiens, mon mari. Bosse la tarava, les envies de manger. Le monde est invivable. C'est invivable. Tu es la femme, j'ai mis du poil à gratter dans ton lit, chérie. Quelqu'un veut mettre du poil à gratter dans son lit. Il veut manger une soupe avec de l'eau, avec un peu de poivre. Ok, qu'est-ce qu'il veut? Je dois m'occuper du Olam Hazé de mon prochain. Sinon, le monde devient invivable. Mais il est vrai qu'il y a un danger là-dedans.
C'est un moteur chez l'homme.
C'est un moteur. C'est un moteur. J'ai dit, on a soif de kavod. Maintenant, j'arrive au point. Qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de kavod. C'est nécessaire. Maintenant, il y a le kavod qui est médoumé, qui est faux, et le vrai kavod. Le vrai kavod, c'est la relation avec Dieu. Quand je sais que Dieu m'aime, que je suis important aux yeux de Dieu, là, j'ai tout le kavod qu'il faut. Dieu m'aime. Pas le type qui me... fait des flatteries parce que j'ai un peu d'argent ou parce que j'ai un statut social. C'est du mensonge. Dieu m'aime, j'ai besoin de plus. Quand quelqu'un est en relation avec Dieu, il est plein. Pas besoin de se remplir par l'extérieur. Quelqu'un qui a besoin de kavod faux, c'est un signe de pauvreté. C'est quoi un pauvre? Eze Achir, Samar Mechiko. C'est qui celui qui est riche? C'est lui qui est heureux de ce qu'il a. C'est-à-dire quoi donc quelqu'un de riche? Quelqu'un qui est satisfait, qui est plein, il n'a pas besoin de l'autre. Quelqu'un qui a besoin de l'autre, quoi que ce soit de l'argent, ou de l'affection, ou du kavod, c'est un pauvre. Quelqu'un qui a besoin de l'autre, parce que sinon il en manque, c'est un pauvre. Quelqu'un qui a besoin du kavod des autres, le millionnaire, d'accord. Et si on fait pas son kavod, c'est un pauvre. Un pauvre type. Misken. Chazal disent une parole qu'il faut souvenir toute sa vie. Savoir avec le même exercice que je vous ai dit auparavant, de ne pas dire moi-je pendant 24 heures. Istaria belagina kish kish karia. Istaria, c'est une pièce de monnaie. La guina, c'est à l'époque, il y avait des amphores en poterie. Une pièce de monnaie dans une amphore de poterie, kish kish karia. Elle crie kish kish. Tu prends l'amphore, secoue-la, que c'est ton chklong, chklong, chklong. Beaucoup de bruit. Remplis-la de pièces de monnaie. Ferme-la, maintenant secoue-la. On n'entend rien. Quelqu'un qui est plein. Pas besoin de moi, eh oh, oh, j'existe, moi je, oui, moi aussi, moi. Tu m'as vu? M'as-tu vu? Quelqu'un qui est plein, pas besoin, au contraire, il donne aux autres. T'es génial, toi aussi, pff, toi, on n'en parle pas. Parce que quand quelqu'un est, manque, il est en manque, c'est tout le contraire, okay. Moi je, comment je vais faire moi je? Personne ne me dit moi je. Personne ne me dit à moi que je suis quelqu'un. Alors comment je vais faire? Je vais descendre. Ah, quand je baisse, je suis plus haut. Toi aussi, ah, je suis encore plus haut, je suis mieux que tous. La shonara. La source de la shonara, c'est le besoin de kavod. Parce que quand je juge l'autre et je descends, forcément, de façon inconsciente, je suis plus que lui. Je suis déjà son juge. En plus, je vois à quel point il est mauvais, donc je suis bien mieux que lui. C'est ça. Quand quelqu'un fait la shonara, c'est un besoin de kavod, à la source. On écrase l'autre comme la piscine, vous savez comment. Tu remontes. Tu remontes, il coule, tu remontes. On coule tout le monde. Ah, maintenant, les deux, on se bat, là, chacun se coule. Dieu dit, bien mieux, branche-toi avec moi. Quand tu es branché avec moi, avec Dieu, tu sais que tu es plein de cavotes parce que je t'adore. Alors quand tu vois un autre, quand tu es plein de cavotes, tu en donnes aux autres. Comme c'est beau et comme c'est rare. Comme c'est beau et comme c'est rare. Il faut se travailler à avoir une relation avec Dieu qui soit pleine. Comment on fait ça? D'abord, savoir qu'effectivement, Dieu nous aime beaucoup et croire en lui. Quand tu vis avec Dieu toute la journée, tu es en relation, tu crois, tu vois la main de Dieu aussi. Quand quelqu'un il est proche de Dieu, il voit sans cesse la main de Dieu. Chaque petite seconde, il peut voir. Quand il est loin, il voit rien. Alors quand tu es en relation avec Dieu, tu as besoin maintenant du faux caveau des autres.
Pose une question. En ce qui concerne le caveau qui est orienté sur des valeurs qui sont illusoires, comme par exemple l'argent, comme vous avez dit, c'est facile de se raisonner. On peut très bien se dire, ben oui, de toute façon, j'ai aucune raison de m'enorgueillir d'avoir de l'argent, parce que de toute façon, l'argent, ça ne dévoile pas
mon
intériorité, mes qualités intrinsèques. Mais lorsque, maintenant, on parle des choses qui ne viennent pas du ciel, comme dit Srazal, Akol Mide Shaman, Khrus Mirat Shaman, tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle est en face d'une avéra, et qu'elle ne fait pas la vera, se retient de faire la vera. Ça, c'est lui qui le fait. C'est lui qui a fait cela. Donc, maintenant, quand on prend par exemple un grand sadique, et on lui fait un compliment, et c'est sadique, Kata, quel sadique vous êtes? Et vraiment, c'est un sadique. Vraiment, c'est quelqu'un que, dans sa vie, et dans toute la journée, il a des tas d'avérotes qui se présentent à lui, et il dit non. Il a des tas de mitzvot qui se présentent à lui, et il dit oui. Ça, c'est bien lui qui l'a créé, puisque c'est Chazal le disent le même, que c'est la Yirat Shamayim, la crainte du ciel, le fait de choisir le bien, ça ne dépend pas de Dieu, c'est pas Dieu qui donne. Donc si c'est lui qui l'a fait, alors là, oui, il y a un réel kavod. Alors comment cette personne, elle va se raisonner? Elle ne peut pas se mentir à elle-même et se dire non, c'est pas moi, mais oui, c'est toi. Elle ne peut pas dire oui, ça vient de Dieu, non, ça ne vient pas de Dieu, c'est toi qui as décidé.
Et toi, tu viens d'où?
Oui, je suis d'accord, mais c'est quand même pas pareil.
C'est vrai, je suis entièrement d'accord. C'est beaucoup plus dur.
Je ne veux pas dire que c'est une illusion.
Alors lui, de travailler comme ça, sur deux choses. D'abord, se dire qu'après tout, tout moi que je suis, ma tzidkou provient de ma neshama et ma neshama provient de Dieu. Donc, j'ai peut-être une part minime, mais ça vient. C'est vrai qu'on a une part, mais sauf, en fin de compte, c'est tout du chesed de Dieu. Donc, de quoi tu t'enorgueillis? Première chose. Deuxième chose. C'est que je sais que je suis tzaddique. Je me bats pour cela et je veux. Et je sais que j'ai des avérotes et j'ai obtenu et je suis heureux de moi-même. Mais je n'ai pas besoin maintenant de l'entendre de l'autre. Parce que si je l'entends de l'autre, je deviens quelque part dépendant du monde du mensonge. Je deviens dépendant des compliments de l'autre. Parce que comme je dis, on s'accoutume. Alors comment on fait? Comment
c'est on mensonge, fait ça. Ça, c'est pas mensonge, ça. C'est vrai, ça.
Regarde. C'est vrai que je suis tzaddique. Maintenant, pourquoi c'est digne de louange de qui? C'est là le piège. Digne de louange de Dieu. Moi, je suis ensemble avec Dieu, je suis proche de Dieu.
Pourquoi pas des hommes?
Parce que quand tu reçois les louanges des hommes, alors ça te place dans un monde qui n'est pas le vrai contexte de la réalité. Ça te fait plaisir, quoi, qu'elle te fait. Tu es un tzadik, ça te fait plaisir. Ça fait plaisir dans quelle partie de toi?
Donc, Tania, il a écrit justement sur ça, que même si tout le monde dit que c'est un tzadik, mets-toi à tes yeux qu'il rachat.
Ok. Ça, c'est encore un troisième truc. C'est-à-dire que, de toute façon, moi, autant que tzadik que je suis par rapport au grand tzadikim de la génération, ou c'est la génération passée et tout ça, je suis un nul de nul de nul, on n'en parle même pas, je suis un rachat gamour. D'accord? Mais, ok. Sans parler de cela, je peux dire, sauf ça, ok, je suis dans la bonne moyenne, je suis dans le peloton de tête, on peut se dire même, d'accord? Alors, pour se dire aussi, comme c'est marqué, Ramban dit comme ça, t'as une neshama qui est plus haute, donc de toi on exige beaucoup plus. Ça peut que l'autre qui est beaucoup moins que toi, en fait, dans celle est beaucoup plus grand, parce que lui, avec un petit potentiel, il arrive beaucoup plus haut. Lui a fait son 90% de son potentiel, toi, t'as même pas fait que 20% de ton potentiel, t'es beaucoup plus grand que lui, dans ce que nous voyons, parce que les gens ne voient pas quel est ton potentiel. Quelqu'un qui fait de la trottinette maintenant, il fait du 40 à l'heure en trottinette, et lui, il est maintenant en Ferrari, il fait du 20 à l'heure. Non, il fait du 50 à l'heure en Ferrari. Mais je te réponds de façon beaucoup plus simple. Lorsque je me comporte comme il se doit par rapport à Dieu, j'ai une relation de proximité de Dieu qui me remplit et qui est saine, qui est bonne, qui s'appelle la Kedusha. C'est une relation avec Dieu, c'est la communication quelque part, le branchement avec Dieu. Qui est-ce que Dieu veut? Qui est complètement kadosh, c'est la neshama qui éclaire. Quand quelqu'un me dit tu es un tzaddik, ça n'éclaire pas du tout ma neshama. Ça éclaire les parties les plus basses de mon être. Les parties animales, qui ont mon animal a soif de kavod. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois monter mon animal au niveau de la neshama et dire, voilà, regarde, là est ton kavod. T'es branché avec Dieu. Et ça me suffit. Quand l'autre vient, il réveille. Il réveille. C'est comme, je prends un exemple, tu vas très bien comprendre. Dieu veut qu'il y ait une relation entre l'homme et la femme. Elle est où cette relation? C'est la chose la plus belle, la plus pure qu'il puisse y avoir. Elle est au niveau de la neshama. Un homme aime sa femme aime son mari, il y a une confiance en Dieu, un amour. Il y a ici une réalité éternelle, très très belle, qui a aussi sa partie, qui finit aussi par le corps, lorsqu'il y a des moments, ok, parce qu'on est un être complet. Passe une bonne femme dans la rue, une bombe. Moi, par malheur, je l'ai vue, il y a une réaction en moi. Attirance, on va dire, en tout cas, ça fait quelque chose. Okay. Alors, je peux appeler maintenant la relation que j'ai avec ma femme et avec cette femme, la même relation, rien à voir. Un seul niveau de la neshama. Et un seul niveau des parties les plus basses de mon corps. Quand quelqu'un me dit, t'es quelqu'un de bien, c'est très bas. Quand je me dis, ou Dieu me dit, je suis proche de Dieu, et en cela j'ai tout le kavod qu'il faut, et Dieu m'adore, je suis choyé, et aimé, et protégé par Dieu, c'est neshama. Tu comprends ce que je veux dire? Oui.
Là, il y a un paradoxe, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, l'autre, il a une mitzvah de
vouloir faire. Oui,
et moi, j'ai une mitzvah de fuir.
Ouais.
Donc, comment gérer la chose?
Le Rav Israël Salanter, qui était un des plus grands rabbins du monde à son époque, lorsqu'on est arrivé à l'Yeshiva, on le portait sur une chaise, et, etc. Un kavod. Et lui, il disait, en même temps, On secoue la charogne. Je n'ai rien qu'une charogne. C'est un travail très dur. Je me souviens que mon Ravota m'a raconté une fois, la Rabbenson Abashaoul, un jour il était comme ça un peu, il n'avait pas tellement le moral. Alors mon Ravota, qui était très proche, il était marié à sa nièce, lui a dit, Kodara, Ben Parat Yosef, vous êtes le possèg de la génération, tous vos psakis. Il m'a dit, il est revenu, c'est comme si, il m'a dit, le Rav, il a réagi, il a sauté en arrière, comme s'il y avait un serpent qu'il avait mordu. Alors toi, tu dois jouer ton rôle, kavod. Lui, c'est que tu joues ton rôle de kavod. Ok, joue ton rôle de kavod. Je me souviens même une fois, maintenant, ça me rappelle une histoire, encore avec le Rabbi Slama Shaul. C'était une année après la mort de Baba Salé, décès. Alors ils ont fait une grande iloula. Et il est venu. Et le présentateur, maintenant, on annonce le Gdol Hador, le Rav Ben Tzion Abba Shaul. Tout le monde applaudit. Et il fait, allez, il leur fait comme ça, tous, allez, applaudissez. Pourquoi il fait ça? Pour prendre la dérision. Allez, faites-moi du cavote. Pourquoi il doit faire ça? Parce qu'il est sensible à ça, c'est certain. Il est sensible et c'est une bagarre terrible. Ça en fait encore une troisième histoire. Pas avec lui. Un de ses élèves, c'était le Rav Sofer. Le Rav Sofer, Shalita. Un grand ami de Chacham. Celui qui s'est marié avec ma cousine, on était au mariage. Et lui étudiait dans les choix du Rav Sofer. Et les deux dansent. Les deux dansent ensemble. Alors, il ne se tenait pas par les mains comme ça. Il dansait comme ça avec lui. Et le chanteur au microphone dit, et le Khatan danse maintenant avec le grand de la génération, le Rav Tzadik, machin, tout ça, le Rav... comment s'appelle Chaim Sofer, Shalita. Après, il m'a raconté, ses parents sont mariés avec ma cousine, il m'a dit qu'il a cru que ses doigts allaient se casser. Le Rav, il a pris comme ça, il dit, pourquoi il parle? Et il a dû broyer les doigts. On ne se rend pas compte combien les guerres qu'ils ont. Ce que je dis au début du cours, le frère de Robinson m'a dit, c'est facile de fuir le cavote quand on n'est rien. Mais quand quelqu'un a beaucoup de Torah, il peut se prendre au sérieux. Mais ok. Pardon? Parce que c'est la vraie réalité. C'est vrai. Il est grand vraiment. Un riche, c'est un nul. Un médecin, je m'excuse de tous les riches et tous les... D'accord? Il y a des gens très bien, mais c'est pas en ça que t'es bien. Dans relation avec l'autre, dans ta connaissance de Torah, c'est en ça que t'es bien. C'est pas ta richesse qui fait que t'es quelqu'un, c'est parce que t'es un médecin que t'es quelqu'un. C'est. Tout le monde sait que c'est du mensonge. Tout le monde le sait, à part vraiment les grands ignorants. D'accord? Mais quand quelqu'un sait maintenant qu'il est vraiment un grand, parce qu'il a la connaissance de Dieu et il a la Torah, là, savoir que j'y suis pour rien, que je n'ai pas besoin du cavote des autres, je suis en relation avec Dieu et je reste dans mon humilité. Par rapport à Dieu, qu'est-ce que t'es? T'es rien. Par rapport à Dieu, t'es rien. Pense à Dieu, t'es rien tout de suite. Je. Oui.
L'homme, quand il a besoin
d'affection, nous sommes tous des pauvres maintenant. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, et si tu n'en as pas? Alors, t'es pauvre, alors qu'est-ce que tu fais? Dieu. Dieu peut remplir tous les biens. On a des besoins, c'est certain. Si quelqu'un est un ange, quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, d'accord? Oui, il peut. Moshe Rabbeinu l'a dit à sa femme au bout d'un moment, écoute, je ne peux plus, terminé. Donc il y a des gens, mais nous on n'est pas à ce niveau-là. Donc on a besoin du kavod, on a besoin d'affection, on a besoin de toutes ces choses-là. Mais lentement, millimètre par millimètre, on arrive à pouvoir, par exemple, à sa femme donner de l'affection. Dans le coup, peut-être on sait qu'il ne me donne pas, chacun crie, tire la couverture vers lui, tu ne me donnes pas assez, toi non plus, tu ne me donnes pas assez, donne-moi plus. Donne-toi. Ça fait que t'es grand. C'est beau, c'est grand. C'est quelqu'un qui est... Ça, c'est un riche. Un riche, il donne. Et riche, qui peut te rendre riche? Que la seule chose qui a une réalité qui est vraie. Et la seule chose qui est vraie, c'est Akash Borou. Donc, c'est branché avec lui. Ouais, et comment? Non. En tant que Bani Matéan Shakulachem, vous êtes des enfants de Dieu. Mais Shachanti Betocham, je demeure parmi vous, Betor Tumotab dans votre Tum'a.
Donc c'est du fait qu'on est en nous,
voilà. Et à part ça, que t'es juif. Ça, c'est parce que pas le fait d'être juif déjà, t'es aimé, choyé, t'es une partie de Dieu, t'es un, etc. T'es déjà un fils de Dieu. Mais en plus, t'es juif, tu es Shorma Shabbat aujourd'hui, tu portes une kippa. Au XXe siècle. Non mais t'es un héros. Mais je ne rigole pas. On est des héros. Tu comprends, tu prêtes maintenant, là, on est le 15 juillet. Où? À Saint-Trope. Tu viens à la yeshiva. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Regardez. Ses copains, ils vont où? Et lui, il va où? Bien sûr, t'es choyé, il n'y a aucun doute là-dessus. Bah, Adonai, l'homme va, mais.